VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 24 juin 2016, en direct de Washington, Idrissa Seduya et Anne Albertson. Et avec nous ce matin, Jean-Roger Bion. Tout d'abord, la nouvelle du jour avec Jean-Roger Bion, le référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne. Eh bien, les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne jeudi avec 52% des voix, selon les projections, en saut dans l'inconnu qui porte un coup terrible au projet européen et à leur Premier ministre David Cameron.
Oui, Idrissa Seydoudia, après dépouillement de 349 des 382 centres, 51,9% des électeurs ont voté pour le Brexit, à l'issue marquée par une participation importante, 72,2% selon les données officielles. Si on attendait toujours le verdict définitif des grandes villes, dont Londres, qui devrait avoir voté très majoritairement pour un maintien, le nombre de voix restant à dépouiller ne devrait pas changer le résultat final. La participation au scrutin a été forte, avec 72%, je l'ai dit, selon le chiffre officiel.
Jean-Roger, la perspective de la victoire du Brexit a aussi affolé ce matin les marchés financiers.
Oui, la réaction des marchés a été immédiate. La livre britannique a chuté à 1,33 $ ce vendredi, perdant plus de 10% sur la journée. Alors que le Brexit était donné en tête, vers 3h45 GMT, la monnaie britannique a dévissé à 1,3305 $ après avoir touché un peu plus tôt son plus bas niveau depuis 1985, selon les annales de l'agence financière Bloomberg. Parallèlement, le yen, valeur refuge, flambait, le dollar chutant à 99,4 yens du jamais vu depuis novembre 2013 contre 106,84 yens auparavant et l'euro à 109,60 yens contre 122,01 yens. Le ministre japonais des Finances Taro Aso a convoqué en urgence la presse vendredi après l'envolée du yen. La bourse de Tokyo, première grande place financière à ouvrir après la fermeture des bureaux de vote, a d'abord démarré sur des gains modérés avant de soudainement changer de cap pour s'effondrer de plus de 7%. La bourse de Hong Kong plongeait de 4,67% aujourd'hui en séance, à l'instar de marché asiatique au bord de la panique. Les géants bancaires HSBC et Standard Chartered étaient touchés de plein fouet par ce vent de panique, perdant respectivement plus de 11 et 12%.
Merci Jean-Roger. Le reste de l'actualité maintenant.
Les États-Unis ont annoncé des sanctions financières contre le chef de la police de Kinshasa, que Washington tient pour responsable de violences et de disparitions dans la capitale. Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU appelle les autorités congolaises à organiser l'élection présidentielle d'ici à la fin de l'année. Tatiana Mosso.
Le général Célestin Kanyama, à la tête de la police de Kinshasa en décembre 2013, est, selon le Trésor américain, responsable ou complice d'actes de violence et d'enlèvement. Ses éventuels avoirs sont gelés aux États-Unis et il est interdit à toute entité américaine d'avoir des relations d'affaires avec lui. D'après le communiqué du Trésor américain, au moins une cinquantaine de personnes ont été tuées et une trentaine ont disparu fin 2013 et début 2014 au cours d'une opération de police baptisée « Likofi » ou « coup de poing » en lingala, destinée à la lutte contre le banditisme. Dans un communiqué diffusé en anglais, Kinshasa condamne la mesure prise par Washington. Pour Barnabé Kibaya Bin Karoubi, conseiller diplomatique du président Kabila, c'est une atteinte à la souveraineté qui contribuera à saper les relations entre les deux pays. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé jeudi sa préoccupation au sujet de l'arrestation d'opposants en RDC. Il a exhorté le président Joseph Kabila à faire organiser la présidentielle d'ici la fin de l'année, comme prévu par la Constitution. Chose peu probable du fait des problèmes logistiques, estime-t-on à Kinshasa.
Au département d'État américain, le porte-parole John Kirby a déclaré que les États-Unis sont profondément préoccupés par la crise politique actuelle en RDC, la violence qui a conduit à la désignation de Kanyama est inacceptable et sape la stabilité et les institutions démocratiques du pays. Les États-Unis, a-t-il poursuivi, exhortent toutes les parties prenantes au Congo à s'abstenir de toute violence et à s'engager en faveur d'un dialogue inclusif crédible visant à faire avancer les élections nationales.
et les autorités congolaises ont arrêté 75 personnes accusées d'appartenir à une nouvelle milice dans l'est instable de la RDC. Parmi ces personnes, le député Frédéric Batoumike, élu du Sud Kivu. Au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, voici le ministre congolais de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba.
Depuis deux jours, nous avons fait arrêter un député provincial à Bukavu, Frédéric Batoumike Rugimbaya. 74 autres personnes ont été arrêtées avec lui. Nous avons pu établir qu'il a mis en place une milice, Jeshi Yayezu en Swahili, ce qui veut dire l'armée du Seigneur. Il lui a reproché spécialement plusieurs attaques, notamment des positions de l'armée et de la police, avec notamment mort d'homme parmi aussi bien les militaires que les policiers. Mais il est poursuivi plus particulièrement aussi pour le meurtre d'un sujet allemand qui était propriétaire de la concession des Bichibourou, qui a été assassiné. Et aujourd'hui, ce député occupe cette concession. La milice a recruté un féticheur qui conseille aux miliciens de violer les très jeunes filles pour pouvoir être assuré d'avoir une protection surnaturelle. Il est également soupçonné d'être le commanditaire du meurtre d'un activiste des droits de l'homme qui a été assassiné en 2015. Après avoir dénoncé les activités de ce député, cet activiste assassiné s'appelle M. Kassali.
Alexis Thambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Thomas Perriello, émissaire du président Barack Obama dans la région des Grands Lacs, vient de terminer une visite de deux jours au Burundi. Il a invité toutes les parties en présence à renoncer à la violence, permettre une participation à un débat politique paisible et à s'engager sur une voie pacifique et négociée à travers le dialogue régional d'Arusha.
Et puis la militante burundaise des droits de l'homme, Marguerite Magui Barankitse, a dit hier à l'AFP que le Burundi est devenu un État voyou et que son président doit être jugé d'urgence. Dans un entretien en marge de sa réception jeudi d'un prix européen saluant son combat, elle a ajouté « Il ne faut pas que demain, ça soit comme le génocide rwandais de 1994 et qu'on nous envoie des ONG d'urgence alors qu'on pouvait prévenir toutes ces tueries. »
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Baltimore, non loin de Washington, un deuxième policier a été acquitté hier dans l'homicide d'un jeune noir mort il y a plus d'un an dans un fourgon de police. Morgan Guériec.
Cesar Goodson, l'un des six policiers jugés séparément, a été reconnu non coupable de sept chefs d'accusation retenus contre lui, dont celui d'homicide involontaire. Faute de preuves, le juge Barry Williams a décidé de l'acquitter. L'agent Goodson conduisait la camionnette dans laquelle Freddie Gray a été placé le 12 avril 2015. Dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées, le jeune noir s'est fracturé des vertèbres cervicales avant de succomber à ses blessures le 19 avril. Sa mort avait entraîné de violentes émeutes dans Baltimore. Cesar Goodson est le troisième policier à être jugé dans cette affaire. Le premier procès, en décembre, avait débouché sur un non-lieu. Les jurés n'étaient pas parvenus à se mettre d'accord sur un verdict. Un deuxième policier, Edward Narrow, a été reconnu non coupable en mai dernier. Deux autres policiers doivent être jugés en août et le dernier en septembre. Un an et deux mois après le décès de Freddie Gray, aucun des six policiers mis en cause n'a été condamné.
Enfin, en politique américaine, le candidat démocrate Bernie Sanders a affirmé hier soir devant des partisans enthousiastes à New York que la lutte pour une révolution politique devait continuer. Pour lui, empêcher le républicain Donald Trump d'être président n'est pas suffisant. L'intolérance, a-t-il poursuivi, était la pierre angulaire de la campagne de Trump. Il fera tout pour être sûr que le milliardaire ne devienne pas président. Mais cela ne suffit pas parce que, a expliqué M. Sanders, notre but depuis le premier jour a été de transformer le pays et c'est le combat que nous allons poursuivre. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Nous passons au sport à présent avec le journal de l'Euro présenté ce matin par Jacques Aristide. Jacques, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Il n'y a pas eu de match hier et il n'y en aura pas aujourd'hui non plus, mais Jacques, tous les regards sont braqués sur la journée de samedi.
Oui Idrissa, les huitièmes de finale débuteront demain après la fin du premier tour avant-hier. L'affiche est connue, il s'agit d'un plateau avec des équipes plus ou moins attendues, mais aussi et surtout quelques nouveautés à l'initiative de pays loin d'être habitués aux phases finales de compétitions internationales. Bref, le moins que l'on puisse dire, Nicolas Pineau, c'est que le tableau est plus que déséquilibré.
Oui, tous les cadors ou presque sont dans la deuxième partie du tableau. Tenez-vous bien, les trois derniers champions du monde, l'Italie, l'Espagne ou encore l'Allemagne, sont dans la partie la plus relevée du tableau. Italie-Espagne en huitième de finale est le vainqueur de ce match qui devrait rencontrer en quart de finale l'Allemagne et pourquoi pas la France ou l'Angleterre en demi-finale. Quel programme ? Autre élément, les pays de la partie relevée ont remporté 20 titres majeurs, soit 11 Coupes du Monde et 9 euros. Les 8 pays de la partie opposée, eux, ne comptent aucun succès. Suisse-Pologne, Croatie-Portugal, Pays de Galles, Irlande du Nord et Hongrie-Belgique, c'est le programme. A priori, la Belgique semble avoir la partie facile. Mais attention, on sait qu'en football, rien n'est jamais joué d'avance. On l'a vu avec l'élimination de la Suède, de Zlatan Ibrahimovic, ou encore les qualifications pour les huitièmes de finale des pays comme l'Islande, le Pays de Galles ou la Hongrie.
L'heure est également au bilan pour les joueurs, Jacques.
Oui, en premier bilan, Idrissa, la sortie de cette phase de poule avant-hier soir, eh bien, avec 3 buts chacun, l'Espagnol Alvaro Morata et le Gallois Gareth Bale se partagent la tête du classement des buteurs à Lionel Gaïma.
Bale et Morata devancent 6 joueurs auteurs de 2 buts, dont le Portugais Cristiano Ronaldo, devenu le premier joueur de l'histoire à marquer dans 4 euros différents grâce à son doublé contre la Hongrie. Avec un total de 8 buts dans les phases finales, il n'est plus qu'à une longueur du record de Michel Platini et ses 9 réalisations en une seule édition, l'Euro 1984, organisé lui aussi en France. Depuis le début de cet Euro 2016 et alors que la phase de poule est terminée, 69 buts ont été inscrits au cours de 36 matchs disputés, soit une moyenne de 1,9 buts par match. À titre de comparaison, lors de la phase de poule de la Coupe du Monde 2014 avec 32 participants, 136 buts en 48 rencontres avaient été inscrits, soit une moyenne de 2,8 buts. À l'Euro 2012 en Ukraine et en Pologne avec ses équipes, la moyenne des buts par match se levait à 2,5 par match, 60 buts en 24 matchs. Pour cet Euro 2016, un but a été marqué toutes les 47 minutes en moyenne. À noter que 20 buts ont été inscrits au cours du dernier quart d'heure, soit près du tiers du total, ce qui en fait la période la plus prolifique. Parmi ces 20 buts, 7 l'ont été dans les temps additionnels. En revanche, la première période est en général beaucoup moins prolifique avec 24 buts seulement sur les 69. C'est notamment le cas du premier quart d'heure, au cours duquel seuls 5 buts ont été inscrits.
Nous l'avons compris, de petites équipes qui vont jouer dans la cour des grands. Tout cela nous amène au coup de sifflet de Jules Valentengui.
Bonjour. Le galop d'essai de la phase de poule de l'Euro vient de s'achever avec son lot de déceptions, de surprises ou de projections qui accompagnent toute grande compétition à cette étape. Les déceptions, on les connaît. L'Ukraine, la Suède, l'Autriche et surtout la Russie, appelées à organiser la Coupe du Monde dans 2 ans, avaient le risque persistant d'une élimination précoce aux conséquences fâcheuses pour l'aspect populaire du grand rendez-vous mondial. Si tous les grands ont répondu à l'appel, le déroulement de la première phase a pourtant faussé les projections. Sur ce plan, les petits semblent avoir fait un pied de nez au tirage au sort, pas si innocent que cela dans ce genre de tournoi. Les organisateurs pariaient sur 2 derniers tableaux équilibrés. Mais l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal n'ont pas dominé leur poule. Et par la faute du Pays de Galles, de la Croatie et de la Hongrie, c'est le Big Bang total. Ainsi, à moins qu'on ne soit pas au bout de nos surprises, le premier tableau donne à la Belgique l'occasion d'atteindre la finale avec pour seul accro notable une demi-finale contre le vainqueur du match Croatie-Portugal. A contrario, le pays organisateur, la France, se retrouve au second tableau en compagnie des autres favoris, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre. Puisque personne ne voyait le coup venir. Il arrive donc parfois que l'éthique sportive pure prenne le pas sur la raison et là, le jeu sur la pelouse a donné son verdict, loin des grandes manœuvres. À bientôt.
Voilà pour ce journal de l'Euro. Merci Jacques Aristide.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, une réforme du code pénal a été adoptée mercredi dernier par l'Assemblée nationale. Le nouveau code pénal maintient la peine de mort. L'homosexualité est toujours passible de 5 ans de prison. Il pénalise par ailleurs l'adultère et concède l'immunité au ministre. Le Social Democratic Front, principal parti d'opposition, a boycotté le vote en question. John Lindon s'est entretenu avec Maître Pierre-Robert Faujou, avocat du barreau au Cameroun.
Le projet d'adoption du code pénal était dans le tiroir depuis plusieurs années, mais seulement depuis 2011, date à laquelle le précédent avant-projet avait été débattu en commission avec la participation de l'ordre des avocats, et on n'en avait plus entendu parler jusqu'au 13 juin dernier, lorsque nous avons appris avec surprise que ce texte était sur la table de l'Assemblée nationale en vue de l'adoption.
Est-ce que l'ordre des avocats a participé à l'élaboration du texte qui a été adopté ou pas?
Il ressort du texte qui a été adopté des dispositions qui n'existaient pas dans celui qui avait été soumis à l'ordre des avocats à l'époque en 2011. Il y a notamment de la disparition dans le projet qui a été déposé sur la table de l'Assemblée nationale actuellement, des infractions relativement au blanchiment d'argent, à l'enrichissement illicite et l'introduction notamment de l'immunité pour les membres du gouvernement.
Alors, vous parlez de l'immunité des ministres et visiblement, cette disposition ne satisfait pas tout le monde. Pourquoi?
Évidemment, lorsque des ministres en fonction ne répondent pas des actes et des infractions commis durant l'exercice de leurs fonctions, y compris pour des délits qui n'ont rien à voir avec leur profession, la profession qu'ils exercent, c'est un cas grave de déni de justice. Donc, s'ils ne peuvent pas répondre aux infractions, on entre dans un régime où le président de la République, l'immunité et les droits, les députés, l'immunité et les droits, ensuite maintenant l'immunité des membres du gouvernement, c'est un véritable scandale.
Qu'est-ce qui, pour vous, aurait été indispensable dans ce texte qui ne figure pas?
Je ne parlerai pas à la place de l'ordre des avocats qui a pompé, j'allais dire, produit un mémorandum assez solide concernant l'ensemble des dispositions du projet. Et naturellement, il y a des infractions qui sont dans ce code qui portent, j'allais dire, moi particulièrement, il y a la filouterie des loyers et qui me heurte vivement parce que dans cette filouterie de loyer, on veut faire mettre en prison pour 2 mois de loyer impayé, alors que la faute, l'intention n'existe pas au moment où on entre dans un local, qu'on ne payera pas de loyer. Il peut résulter des difficultés, j'allais dire, financières dues à la perte de l'emploi ou au défaut de paiement des salaires. Il peut même résulter également d'une hospitalisation.
Maître Pierre-Robert Faujou, avocat au barreau du Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Tchad, les établissements sanitaires éprouvent d'énormes difficultés. Selon notre correspondant sur place, l'État réduit de façon considérable depuis pratiquement 3 ans les subventions et crédits de fonctionnement alloués à ces structures sanitaires à cause de la conjoncture économique. De N'Djamena, les précisions d'André Kotpadjingar.
À l'hôpital général de référence nationale, par exemple, la subvention qui était de 3,6 milliards de francs CFA en 2014 a été réduite à 1,850 milliards de francs CFA en 2015, puis finalement à 850 millions en 2016. Pour le responsable de l'unité de virologie de l'hôpital général de référence nationale et secrétaire général du syndicat des travailleurs des affaires sociales et sanitaires du Tchad, Montanan Dinoromtan, c'est la mauvaise gestion qui plonge les établissements sanitaires dans cette situation.
Vraiment, la santé, ça c'est le droit le plus élémentaire des citoyens. Et l'État a le devoir, pour ne pas dire l'obligation, de faire en sorte que toute la population tchadienne ait accès aux soins. Ce qui se passe, c'est la mauvaise gestion qui nous amène à cet état de choses. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est mettre la population à la vindicte populaire.
Le système sanitaire au Tchad est malade et mérite un bon diagnostic pour le sortir de cette léthargie, estime Mianyal Kaboro, professeur agrégé d'anesthésie et de réanimation à l'hôpital général de référence nationale et secrétaire général du syndicat des médecins du Tchad.
Donner une ordonnance à un malade dans un service d'urgence, c'est une anomalie. Parfois, on dispose de 15 minutes pour sauver le malade. Et si on n'a pas de quoi soigner les malades, le malade va décéder. Et c'est ce qui arrive très souvent. Mais moi, j'ai dit, il faut qu'on aille vers les états généraux de la santé pour pouvoir diagnostiquer tous les problèmes. Parce que en matière de maladie, personne ne peut échapper à l'urgence.
Ngartoïde Blaise, le parent d'un malade, a été victime du dysfonctionnement des services des urgences. Il se souvient de la mort de son enfant par manque des réactifs.
J'étais avec un enfant à l'hôpital. L'enfant développait une anémie. Alors on m'a demandé d'aller au niveau de banque du sang pour pouvoir chercher à ce qu'on puisse me prélever le sang pour donner à l'enfant. Je suis arrivé là. Les laboratoires m'ont dit bon, mais qu'ils n'ont pas de réactifs pour pouvoir prélever mon sang, tester et ensuite remettre à l'enfant. Je suis arrivé au niveau de l'hôpital de la Liberté. Les laboratoires qui étaient là, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas de réactifs. Je suis obligé de continuer à l'hôpital de la Renaissance. Mais on me dit non, non. Je ne suis pas venu avec un papier de l'hôpital de référence. Ils ne peuvent pas me donner. Et c'est comme ça que la journée suivante, l'enfant s'est éteint. C'est regrettable.
André Kodumadjigar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
En Afrique du Sud, des militants de l'ANC qui manifestaient cette semaine contre la nomination d'une candidate du parti pour la municipalité englobant Pretoria, la capitale, s'en sont pris aux immigrés africains, saccageant et brûlant leurs magasins. Timothée Donangmaï a joint à Johannesburg Marc Gbafou, président du Forum de la diaspora africaine d'Afrique du Sud.
Ce que attend que la diaspora africaine d'Afrique du Sud nous déplorons, c'est que les gens qui sont fâchés contre le parti politique qui est l'ANC, le parti au pouvoir, s'apprennent aux migrants, donc aux étrangers qui sont en Afrique du Sud, ils cassent leur petit commerce. Il y a eu au total au moins 5 morts. Et c'est cette situation que la diaspora africaine déplore. Chaque fois quand il y a quelque chose, que ce soit le service qui n'est pas bien fait dans les villes ou dans les townships, les gens s'apprennent aux migrants. Et le gouvernement ne fait rien pour mettre sur pied une législation pour punir les auteurs des crimes. Les gens pensent que la vie des migrants ne vaut rien en Afrique du Sud. Si tu tues un migrant, ce n'est rien. Ça devient une culture. Quand le Sud-Africain n'est pas content, il s'en prend à un étranger.
Quelle est la situation des migrants affectés par les dernières violences?
Ça fait pratiquement 3 ou 4 jours maintenant. Leurs petits commerces sont fermés, sont détruits. Plusieurs migrants ont été victimes de ces violences. Souvent, c'est les hommes entrés, les policiers même qui vont piller les boutiques, qui vont piller les petits commerces des migrants. C'est cette situation que la diaspora africaine d'Afrique du Sud a déplorée et donc est en train de faire un communiqué de presse.
C'est une situation récurrente en Afrique du Sud et les autorités, notamment le président Jacob Zuma, s'étaient exprimés pour déplorer cette situation. Est-ce que cela n'a rien changé?
Dans nous autres, notre terroir, on dit que tu peux verser de l'huile rouge avec ta main gauche et tu montres la main droite pour dire que tu vois, il n'y a rien dessus. Juste pour dire qu'en Afrique du Sud, c'est une situation où le gouvernement en place ne reconnaît rien, même quand les gens sont morts, même quand les gens sont en face.
C'était Marc Gbafou, président du Forum de la diaspora africaine d'Afrique du Sud, joint à Johannesburg. Au Nigeria, les investisseurs se félicitent de la décision prise cette semaine par les autorités de laisser flotter le cours du Naira, la monnaie nationale. Une décision forcée par la chute des cours du pétrole brut, principale source de revenus du pays. L'espoir est de relancer la croissance de l'économie nigériane. Pour un éclairage, nous retrouvons Timothée Donangmaï, qui a joint le professeur Ali Buhari de l'Université de l'État de Nassarawa à Kefi, près d'Abuja.
Le gouvernement dirigé par le président Buhari a refusé au départ d'évaluer les nerfs, compte tenu de l'expérience des années 90, influencée ou bien commanditée par le Fonds monétaire international depuis Washington. Cette fois-ci, il a décidé de laisser les nerfs flotter afin de trouver son valeur de convertibilité face aux devises étrangères comme le dollar, les British pounds et l'euro de l'Europe.
Quel est l'intérêt d'un tel flottement pour les investisseurs?
Ça va entraîner les investisseurs à amener leurs devises étrangères de l'extérieur du pays. Donc tout un chacun qui veut amener les devises étrangères est maintenant libre d'amener les devises étrangères pour investir au Nigeria. Il peut même faire le commerce avec son devise étrangère comme le dollar ou le British pound. Suite à la chute du prix du pétrole, le Nigeria est dans une crise économique. Il n'est plus capable d'importer ce qu'il en a besoin. C'est pourquoi maintenant, ce nouveau système de laisser les nerfs à flotter va encourager les investisseurs extérieurs à amener leur argent pour investir au pays.
Et qu'en est-il du Nigérian moyen? Quel est l'impact de cette mesure sur la vie de tous les jours?
Pour la vaste majorité de la population nigériane, ils ne sont pas des économistes. Leur problème quotidien, c'est de voir la nourriture sur leur table. Et maintenant, on traverse une crise économique très écrasante. L'inflation, à l'heure où je vous parle maintenant, est aux alentours de 20%. Avec la crise économique que les Nigériens traversent, la population pleure.
Le professeur Ali Buhari de l'Université de l'État de Nassarawa, Kefi, près d'Abuja. La Minute Éco, John Lennon.
Le groupe de médias et divertissement nigérian Silverbird, créé en 1980, a été fermé, a confirmé hier jeudi son propriétaire pour cause des dettes impayées. Une dette qui s'élève à près de 34 millions d'euros. Bien qu'évoquant une période difficile, Ben Murray Bruce, son fondateur, s'est voulu rassurant sur Twitter. « La situation est en train d'être résolue et les choses vont rentrer dans l'ordre », a-t-il déclaré. La Banque africaine de développement a approuvé mercredi un prêt de 151 millions de dollars pour la réhabilitation de 208 kilomètres de route au Rwanda et la construction d'une autoroute reliant Kampala à un vaste réseau routier traversant le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda depuis le port de Mombasa. Un Américain sur sept vit dans la pauvreté, soit près de 46 millions de personnes. C'est ce que souligne le FMI dans son examen annuel de la première économie mondiale publié mardi. Le Fonds monétaire international presse donc les États-Unis de lutter de façon urgente contre la pauvreté et les inégalités qui pèsent sur l'avenir du bien-être économique du pays le plus riche du monde.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia, Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.